BFM Bourse, on refait la séance.
Sur le pétrole, il a été clair, alors vraiment, c'est le cas de le dire là pour le coup, clair comme de l'eau de roche, hein, Benjamin, c'est toujours passionnant, franchement un grand talent de l'émission. Comme Thibaut François qui vient de nous rejoindre, Fastea Capital, rebonsoir Thibaut.
Rebonsoir
Guillaume. En fil rouge, et Étienne Monceau qui nous accompagne aussi ce soir, bonsoir Étienne, pour Zone Bourse. Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. Promis, on va parler d'NVIDIA dans un instant, qui est en hausse avant sa publication tout à l'heure. Avant d'en parler, notre star du jour à nous, c'est Euronext qui a publié plus 5% ce soir. Le trading, ça a porté le premier trimestre. Est-ce que les perspectives méritent ce plus 5 aujourd'hui, Thibaut?
Ouais, bonne croissance bonne croissance depuis le début de l'année. L'acquisition grecque se passe bien. Les perspectives sont plutôt bonnes. Les taux sont plutôt à la hausse. Et on le répète, mais c'est vrai que quand les taux sont plutôt bien orientés et sont plutôt haussiers, c'est plutôt très favorable pour l'ensemble du secteur financier. Bon, il manque, allez, si on veut être un petit peu tatillon, il manque un petit peu d'introduction en bourse sur Euronext. C'est toujours compliqué la partie primaire, mais c'est vrai que le reste des activités est plutôt bien orienté et il y a toujours cet aspect un peu spéculatif autour d'Euronext, qu'il soit consolidateur ou aussi qu'il soit éventuellement proie avec, on pense à Deutsche Börse bien entendu.
Ah bon, Euronext, Deutsche Börse, vous pensez encore que ça pourrait avoir lieu un rapprochement entre Euronext et le géant allemand des marchés? Alors, enfin, le géant, l'opérateur allemand des marchés.
Je suis assez pessimiste parce qu'effectivement, le veto européen risque d'arriver. Mais par contre, c'est vrai que je pense que sur le fond, ça serait une très bonne chose pour l'Europe, qu'ils arrivent à s'entendre et qu'ils arrivent à avoir un pôle extrêmement fort sur l'Europe pour faire face aux mastodontes américains ou anglais.
Mais est-ce que l'Europe s'y opposerait en disant « Ah non, c'est trop gros, là, il faut plus de concurrence. » Est-ce que voilà, un groupe un peu puissant, ça ferait peur et du coup, ça entraînerait une levée de bouclier des institutions européennes, alors que l'Europe a besoin de puissance, au contraire. Et voilà, la question reste sur la table. En tout cas, ce soir, après sa publication, Euronext gagne 5%. Étienne, est-ce qu'il faut accompagner la hausse pour la suite?
Oui, Euronext est un excellent dossier. D'ailleurs, on l'a en portefeuille. Et c'est vrai que c'est une position difficile dans laquelle elle est, puisque c'est un serial acquéreur qui est en train de vraiment consolider une activité dans un marché européen qui est encore fragmenté et dans lequel chacun veut planter son petit drapeau et conserver son petit drapeau national sur ses institutions. Et comme le dit Stéphane Boujna dans l'Earning Call et très récemment, qui est des résultats, il expliquait que dans une opération M&A, il y avait un acheteur, mais il fallait aussi un vendeur qui était OK pour vendre. Mais en tout cas, la publication, elle est excellente. Encore une croissance à deux chiffres. Et on a une vraie validation de la réorientation du business model de Euronext pour qu'il soit moins sensible à la volatilité du marché, avec un développement très conséquent des activités post-trade, ainsi que du côté des ETF. D'ailleurs, toute la partie post-trade de Euronext, elle vient désormais faire presque 50% du volume d'affaires de Euronext et couvre déjà à eux seuls plus de 150% des charges opérationnelles. Donc on a vraiment une transformation qui s'opère très bien et des intégrations de bourse qui se passent relativement bien aussi. Clairement acheteur sur le dossier.
Clairement acheteur. Vous aussi Thibault, clairement acheteur. Bon, on va voir si tout le monde est d'accord là. Il manque encore l'avis de Romain Daubry et vous savez que son avis compte double. Il est seul face à vous, c'est voilà la lecture graphique des marchés, mais son avis compte double. Romain, est-ce que vous aussi vous pensez qu'il faut être acheteur sur Euronext ou au contraire vous venez apporter un avis différent?
Bien, pour tout vous dire, j'avais un petit signal baissier sur Euronext qui devait renvoyer le titre aux alentours de 132. La clôture du jour est en train de l'invalider. Tant qu'on est au-delà de 147,20, et c'est le cas en clôture, 147,60, ben effectivement, on pourrait sortir d'une grande congestion qui date pour Euronext de mars 2025. Hein, on est calé entre 116 et 147. Et dans ce cas-là, eh bien, on a un mouvement haussier complémentaire qui pourrait nous mener jusqu'à 177. Donc, pour l'instant, c'est du mieux depuis cette publication.
Bon, une pépite pour la suite, comme ça, avant de parler d'NVIDIA, du secteur automobile aussi, parce que Stellantis fait rentrer un Chinois dans une de ses usines à Rennes, figurez-vous. Mmh. Avant d'en parler, donc, une pépite, un acteur de marché dans lequel vous croyez pour la suite. Thibault.
On screen pas mal le marché en ce moment pour regarder un petit peu ce qui a pas forcément bien marché, ce qui a bien publié et en fait les atouts de certaines boîtes. On a regardé un dossier qui s'appelle Mint, c'est un distributeur d'énergie, d'électricité qui fait de très bonnes publications depuis plusieurs années et c'est un dossier sur lequel qui est assez intéressant parce que la trésorerie nette du groupe est supérieure à la capi boursière du groupe. C'est-à-dire que bon, ce sont des petites capitalisations, donc bien sûr, faut y aller avec parcimonie en termes d'achat et de vente, parce qu'il y a beaucoup de volatilité et la fourchette est assez large. Mais c'est un titre qui aujourd'hui a plus de 30 millions d'euros de trésor net et qui fait moins de 30 millions d'euros en bourse, alors qu'elle est rentable, elle dégage du cash flow et les perspectives de Mint sont plutôt intéressantes. Donc ça fait partie des dossiers qu'on aime bien aujourd'hui et je pense que elle est à redécouvrir. C'est un dossier qui s'appelait Budget Telecom à l'époque, donc sur la partie, c'était il y a quelques années quand même, donc dans le sud de la France, et qui s'est transformé sur la partie électrique et qui nous semble plutôt intéressant à suivre pour les prochaines années.
Voilà, pour ceux qui veulent diversifier, c'est la diversification. Etienne, même question, est-ce qu'il y a une pépite comme ça avec vos équipes chez Zone Bourse que vous estimez mériter d'être mise en avant ce soir?
Alors, si pépite, ça veut dire petite cap, bon, je serai hors sujet, mais moi, celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est Microsoft. Voilà, tout simplement. Oh. Surtout dans le contexte de marché actuel, bon, on sait qu'il y a clairement très peu de secteurs qui vont bien en ce moment et qui tirent les marchés à la hausse. Et Microsoft est à cheval un petit peu sur ces thématiques-là. Et pourtant, c'est un cours qui est beaucoup plus simple à acheter que les autres acteurs du monde de l'IA. Je trouve que c'est assez effarant qu'aujourd'hui Microsoft s'échange à des forward PI aux alentours de 20-22 et je trouve le dossier extrêmement attrayant. D'ailleurs, Bill Ackman a vendu du Google pour acheter du Microsoft, on l'a vu dans les news récemment.
Je veux pas du tout casser l'ambiance chez Zone Bourse, mais il me semble qu'il y a quelques jours, Tommy Douziège, donc qui est votre collègue, nous disait, on lui demandait entre Alphabet et Microsoft laquelle il faut privilégier pour le moyen long terme, quand on parlait pas pour la séance du jour, et il nous disait non mais Microsoft, faut oublier, il faut aller sur Alphabet. Vous dites l'inverse. On ne veut pas casser l'ambiance. Mais
voilà. Ça nous arrive de ne pas être d'accord. Et ça nous arrive de ne pas être d'accord et c'est ce qui fait la beauté de notre équipe de gestion, je crois.
Ah oui, c'est bon, il y a tous les avis. C'est ça le marché. Il n'y a pas de vendeur sans acheteur.
Il y a un acheteur, il y a un vendeur.
Mais forcément.
À la même minute.
Alors voilà, est-ce qu'il peut être les deux à la fois, lui aussi, en faisant jongler les graphiques? D'un point de vue graphique, Romain, Microsoft, qui est quand même en sous-performance incroyable historique face au Nasdaq 100. On est sur la pire sous-performance depuis quelques semaines de Microsoft face au Nasdaq en 6 ans. C'est pas rien. Est-ce que d'un point de vue graphique, vous estimez que oui, ce titre est maintenant armé pour repartir de l'avant, comme le pense Étienne?
Mais oui, il y a un signal graphique qui s'est déclenché maintenant il y a quelques semaines, hein, depuis la fin du mois de mars, comme sur l'ensemble des techs, sauf qu'effectivement, Microsoft, on comprend pas pourquoi elle bute contre cette résistance à 428. Donc, on avait recommandé aussi l'achat. La cible, elle est relativement proche, mais c'était entre 465 et 475. Et effectivement, on s'explique mal cette sous-performance du titre qui n'arrive pas à déborder ce niveau complémentaire. Donc, un début de réaction haussier et qui est bien moindre que les autres. Donc oui, acheteur, tant qu'on est au-delà de 409.
Ce soir, Nvidia. Nvidia va publier ses résultats après la clôture de Wall Street. Le marché semble vouloir y croire puisqu'il y a des paris haussiers. Là, le titre gagne 2% cet après-midi. Nvidia, donc, on est maintenant à un peu moins de 5 heures de sa publication. Est-ce que vous pensez qu'Nvidia, avec ses petits bras bien costauds, on est d'accord, mais avec ses petits bras, pourra redonner de l'optimisme au marché alors que les taux obligataires sont élevés, inquiètent les investisseurs? Est-ce qu'Nvidia arrivera lui tout seul à faire oublier le marché obligataire et à redonner de l'allant au marché d'après vous? Thibaut.
Ben, en fait, Nvidia va donner là, c'est-à-dire que si Nvidia surprend positivement le marché, et pourtant le marché est déjà extrêmement positif, ça voudra dire que la demande est toujours extraordinaire sur l'ensemble du secteur, et donc forcément ça va embarquer toute la partie tech, toute la partie IA, que ça soit aux États-Unis ou en Europe. Donc on va forcément regarder et épier un petit peu ce qui va se passer ce soir. C'est extrêmement important pour que le mécanisme et le momentum reste extrêmement favorable sur la partie techno. Il va falloir qu'Nvidia prouve, et c'est vrai que ces dernières publications, ils prouvent plutôt à la hausse et ils confirment chaque trimestre les perspectives de croissance. Et on s'aperçoit que tout le monde en bénéficie, et notamment le secteur techno américain.
Ah oui, bien sûr, ça reste vraiment une valeur qui tracte l'ensemble de ce secteur. Nvidia, on verra ce qu'ils disent aussi sur la Chine, hein, parce que cette rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, c'était à Pékin, ouvre peut-être la perspective d'un retour d'Nvidia en Chine. On verra, mais Jensen Huang, de retour de Pékin, disait « on y croit, on pense qu'on arrivera à nouveau à exporter peut-être nos meilleures puces en Chine à suivre. » On verra ce qu'en dit Nvidia. Est-ce que vous êtes optimiste, en tout cas vous, Étienne, sur cette publication? Est-ce qu'à lui seul, Nvidia fera oublier les inquiétudes du marché?
Non, je pense que le timing n'est pas excellent pour cette publication et je pense pas que réellement la surprise comptable soit le point important de cette publication parce que effectivement si on regarde l'agenda des publications trimestrielles historiques, les taux de surprise sont constamment positifs, donc l'entreprise nous a habitués à surprendre les analystes. En revanche, c'est pas toujours que la réaction n'est pas toujours haussière, elle est même très souvent flat voire baissière, et là si on regarde du côté du marché des options, on a de nouveau un biais plutôt baissier avec une volatilité attendue de 6,5%. Je pense que le dossier est excellent, encore une fois, à moyen terme, long terme, même si aujourd'hui, il n'y a plus personne qui croit à des marges nettes supérieures à 50% au-delà de 2030. Ça ne se voit pas dans le résultat net. Pourquoi ? Parce que le chiffre d'affaires compense, la hausse du chiffre d'affaires compense, mais ça se voit dans le ROE, la rentabilité des capitaux propres, qui passe de 90% l'année dernière à ce qui est attendu pour 2030. On parle de 45-50%, quoi. Donc il y a vraiment une baisse de la rentabilité, ouais. c'est pricé, je pense, c'est pour ça que le titre s'échange à 20 fois les bénéfices de l'année prochaine. Mais là, je ne rentrerai pas sur le titre actuellement, juste avant la publication, ça c'est hors de question.
Tiens, il y a Crypto, il y a des codes qui réagissent sur Nvidia, sur le Félix BFM Bourse, il nous dit quoi ? Nvidia a plus de 4 000 milliards de dollars, je le cite hein, cet auditeur, Nvidia a plus de 4 000 milliards, c'est le mec en soirée qui a déjà bu tout le champagne et qui te dit qu'il est encore sobre. Oh, c'est dur. Non mais franchement, il délivre Nvidia. Graphiquement, Romain, vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui ont confiance pour ce soir ou de ceux qui restent prudents ?
Graphiquement, elle a donné une impulsion haussière en débordant 208 le 7 mai dernier. Elle est sortie d'une congestion qui datait d'octobre. La cible technique suivante, c'est 246,60. En termes de comportement, effectivement, on a 5 acheteurs pour un vendeur en termes de ratio put-call sur les niveaux actuels. Ça signifie que la surprise positive devra être gigantesque pour trouver de nouveaux entrants. Tout le monde est d'accord, tout le monde est positif sur le dossier. Donc, je rejoins l'avis d'Étienne. En effet, c'est difficile de trouver beaucoup de momentum à la hausse encore, même si pour l'instant, un signal graphique qui est intact. Attention, sous 208.
Cet autre auditeur nous écrit, c'est Laurent sur LinkedIn, à propos du titre Vertiv. Elle est pour vous, Étienne, cette question. Vertiv Holdings, depuis le début de la semaine, l'action enchaîne des fortes baisses, perdant même 10%. Vertiv Holdings, moins 10% en quelques jours. Quelle est la raison de cette baisse? Est-ce que vous voyez un rebond possible, Étienne?
Je vais parler pour les HVAC de manière générale, donc cette catégorie d'entreprises pelle et pioche de la chaîne de valeur IA, donc Vertiv, Amphenol, Comfort System, c'est un peu tous les mêmes dossiers. Effectivement, une correction assez importante sur le titre. En fait, je pense qu'à défaut, clairement, à défaut de pouvoir payer des modèles providers sur la chaîne de valeur IA, aujourd'hui, le marché, il a eu tendance, on va dire, à surpayer les pelles et pioches. Et on arrive sur des ratios de valorisation qui sont plus difficiles à acheter pour ces HVAC qui s'échangent, qui sont, il faut le rappeler quand même, des valeurs industrielles qui s'échangent aujourd'hui à des forward PE de 50, quoi. Donc, je pense qu'il faut laisser place à la consolidation. Aujourd'hui, c'est très difficile de rentrer sur un dossier comme ça. Et quand on l'a en portefeuille, on le conserve, mais on s'attend pas à ce que ce soit les meilleurs perfs.
Et justement, Étienne, on reste dans la tech américaine. Juste pour terminer, là, dans la tech tout court, il y a un ancien chercheur d'OpenAI qui, figurez-vous, a créé son hedge fund. C'est toujours intéressant de voir comment un ancien chercheur d'OpenAI, qui a quand même lancé l'intelligence artificielle auprès du grand public, OpenAI, voit l'avenir de la tech. Et là, son hedge fund a publié ses performances, ses choix d'allocation du premier trimestre. Donc, on y voit clair sur la vision de cet ex-chercheur d'OpenAI sur l'avenir de la tech. Quelles leçons vous en tirez ? Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans ces choix d'allocation-là ?
Oui, alors cette publication, elle est extrêmement attendue. On dit un ancien chercheur d'OpenAI, mais il faut rappeler quand même que Leopold Aschenbrenner, il a 25-26 ans. Il a intégré l'équipe Super Lineman de OpenAI, il avait 22 ans. Donc quand on dit ça, ça veut clairement dire que niveau du spectre de QI, il est de l'autre côté du graphique. C'est quelqu'un qui a monté un hedge fund et qui a réussi à lever 1 milliard sur la base d'un white paper qui faisait 150 pages. Il fait partie des 300 personnes de la Silicon Valley qui ont la connaissance, qui ont l'insider information sur tout le segment IA. Maintenant qu'il est gérant de hedge fund, en plus, il y a tout le monde qui lui souffle à l'oreille. Il a fait des choix absolument énormes sur les derniers trimestres. Et là, il vient de publier un 13F qui laisse penser, enfin pas qui laisse penser, qui montre qu'il y a une très grosse prise de parti de couverture sur la thématique dans laquelle il est le spécialiste, c'est-à-dire la thématique IA. Ce qu'on voit, c'est des grosses entrées de put sur les valeurs les plus liquides du segment IA. Il faut faire attention à cette publication. Il faut surtout pas croire qu'il a un biais baissier sur ces titres en particulier. Hein, et je parle là de Broadcom, Oracle, Nvidia, etc. C'est juste qu'il a cherché en fait les puts les plus liquides pour se protéger. Et on voit qu'il reste sur sa partie longue, equity, donc sur ses achats. Il n'a pas fait vraiment énormément de changements. Il a juste lâché la photonique avec les dossiers extrêmement bien valorisés. Ah oui. Mais il reste toujours long sur SanDisk, Bloom, etc. Donc il est toujours long sur l'IA de manière générale. Et de toute façon, son white paper le disait qu'il serait long pendant des années encore. Mais par contre, il se couvre à court terme et ça va donner un très fort signal au marché. Même si aujourd'hui, ses puts sont perdants.
Voilà, il faut le dire, c'est intéressant de regarder.
C'est très intéressant.
Effectivement, c'est l'insider là, voilà, effectivement. Dans la tech, ouais, la tech ça monte, mais il faut de plus en plus faire tourner au sein de la tech. Hein. C'est ça qu'on peut aujourd'hui se dire, effectivement. Merci beaucoup Étienne. Étienne Monceau qui nous accompagnait pour Zone Bourse. Merci à Romain Dobry qui lui aussi est de l'autre côté du graphique hein, en termes de QI. Merci beaucoup Romain de nous avoir accompagné dans l'univers graphique des marchés. Avec nous depuis Zone Bourse, depuis Bourse Direct. Pourquoi il y a Bourse dans tous vos noms d'entreprise là? C'est pas original. BFM Bourse, ça s'appelle. Ah ben oui, il y a Bourse. À demain Romain pour nouvelles aventures et merci à vous parce que vous, il n'y a pas Bourse dans votre nom.
Il n'y a pas Bourse.
Fastia Capital. Assumer le capital.
Exactement, on assume.
Thibault François. Merci Thibault de nous accompagner si régulièrement et ici en plateau. Le CAC 40 ce soir gagne 1,7%. Bonne soirée à tous.